Alors, bon, j'avais prévu hier de vous parler de quelque chose, et puis comme d'habitude, ça a changé. Le Seigneur fait souvent changer comme ça. Voilà. Bon, en fait, hier, on a parlé de l'esprit de Yavan, et j'avais déjà un peu introduit l'esprit de Tzion à Sion, en Suisse, et dans l'esprit de Tzion, il y a quelque chose d'absolument important à voir. Il n'y a pas très longtemps, il y a un pasteur qu'on connaît bien, qui est responsable, disons, il y a une association d'église et il en est le président. Voilà. Donc, il passe beaucoup de temps à voyager en France pour aller voir les différents pasteurs de cet ensemble d'églises. Et tout d'un coup, un soir, on parle comme ça, et il me dit, j'ai une question à te poser. Ah bon? Et cette question est la suivante. Il me dit, je voudrais faire Shabbat, mais je suis pris tous les week-ends ou presque, justement parce qu'il faut que j'aille voir les autres pasteurs, et ils ne sont libres que les samedis et les dimanches. Alors il me dit, réponds pas tout de suite. Évidemment, c'est une question piège. Comment faire, hein? Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et également, je me suis dit, mais au fond, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui se mettent à faire une sorte de Shabbat. Et puis, au bout d'un moment, ils se lassent. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ne voient pas de différence avec le dimanche. Vous voyez? Ils ne voient pas de différence. Et je me dis, mais au fond, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Le Shabbat, ce n'est pas la même chose que le dimanche à l'église. Alors, je me suis dit, j'ai déjà fait une étude sur le Shabbat, hein, vous pouvez la trouver, elle est sur le site de Michel. J'ai déjà fait, mais là, vraiment, sa question m'a fait creuser et j'ai dit, ce qu'il faut trouver, c'est quel est l'esprit du Shabbat. Donc, cette étude que je vais vous apporter, c'est la pensée de Tzion, je crois. Et vous savez bien que le Seigneur Yeshua n'a jamais renoncé au Shabbat, jamais. Ce qui l'énervait et qu'il mettait en colère, c'était la façon avec laquelle c'était fait. Et donc, ce qui m'intéresse ici dans cette étude, ce n'est pas de vous expliquer comment il faut faire le Shabbat. Vous faites le Shabbat comme vous le sentez, d'accord? Mais s'il faut en comprendre la profondeur, il faut en comprendre l'esprit. Je ne vais sûrement pas vous expliquer comment on ouvre le Shabbat. Les rabbins ont mis au point des façons de faire. Ben, grand bien leur fasse, hein. C'est très bien. Nous aussi, Véronique et moi, on a une façon de faire. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce qui compte au fond derrière tout ça? Et c'est vrai que dans la Bible, cherchez bien, vous ne trouverez pas la façon de faire. Vous ne trouverez pas. Et pourtant, le Seigneur dit tout le temps, oui, mais attention, faites attention à mes Shabbats. Donc, moi, je ne vais pas ici essayer de vous expliquer une technique, une façon de faire. De toute façon, si je faisais ça, je vous remettrais dans le légalisme. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est à voir, mais quelle était la pensée de Dieu quand il a dit, on met en place un Shabbat. Voilà. Alors, la question qu'il m'avait posée, ben, finalement, elle a été salutaire, et ça me permet aujourd'hui, ben, de vous donner la réponse. Enfin, je pense. Alors, bien sûr, vous savez que la question du Shabbat dans le monde de l'Église est une question qui est très, très controversée. C'est un sujet qui est clivant. Hein? Moi, je connais, je ne vous dirai pas qui ni comment, Mais je connais des gens, un pasteur, qui a été démis de ses fonctions parce qu'il a commencé à faire une sorte de Shabbat. Hein, voilà. Donc, c'est comme ça. Bien. Ce que je voudrais ajouter, c'est que comme j'avais déjà eu l'occasion de parler de Shabbat et que j'ai eu l'occasion à plusieurs endroits de faire l'ouverture du Shabbat avec des chrétiens, etc., eh bien, il y a des gens qui se sont mis aussi à le faire. Et je me suis rendu compte que parmi ces gens, il y en a qui se mettaient sous un joug. Ils se mettent sous un joug et ils se disent, ah, mais il faut faire absolument comme les Juifs. Et puis alors, ça devient un cérémoniel, un cérémonial, je ne sais pas comment on dit, qui est très contraignant. Hein, on commence à regarder les heures, on commence à regarder tout, etc. Et puis, c'est très contraignant et ça devient du légalisme. Alors, moi, c'est pas la première fois que je le dis, mais je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout légaliste. Hein? Le jour où je serai légaliste, c'est que sans doute je serai tout près de la mort. Hein? Non, surtout pas. Et avant de commencer encore, je voudrais dire que je n'impose rien à personne. C'est selon vos convictions. Mais venez pas m'imposer les vôtres. D'accord? Voilà. Alors, dans Colossiens 2, versets 16 et 17, il est écrit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Bon. Et il ajoute, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Bon. L'ombre d'une chose, ça ressemble à cette chose. L'ombre d'un chat ressemble à un chat. D'accord? Un petit peu différent, mais enfin, c'est une ombre. Et vous pouvez marcher sur l'ombre. Le chat ne va pas mourir. Mais non, mais c'est évident. D'accord? Mais on ne peut pas piétiner l'objet dont on a l'ombre. C'est pas possible. Et si le Shabbat n'était que l'ombre des choses à venir, ben ça veut dire qu'il va venir un véritable Shabbat. Et ce véritable Shabbat, évidemment, c'est le millénium. C'est le septième jour de 1000 ans, si vous préférez. D'accord? Et bien entendu, nous savons que c'est tout proche. Le royaume de Yeshua sur terre, c'est un Shabbat. Mais déjà, ce royaume devrait être parmi nous. J'ai toujours dit, l'Église n'est pas le royaume de Dieu. C'est pas le royaume. Mais dans le royaume, dans l'Église, nous pouvons faire venir les signes du royaume. C'est comme ça que vous avez des phénomènes qui se produisent, et puis des guérisons, et tout ce que vous voulez, ça, ce sont les signes du royaume. Mais le royaume, il est à venir. Et nous sommes déjà dans le royaume, mais il est quand même à venir. C'est pas évident à comprendre, il faut comprendre ça par l'esprit. En tout cas, ceux qui font partie de l'épouse devraient être déjà dans l'esprit du Shabbat. Ça, c'est important. Et cette étude, dont je le répète, n'a aucunement l'intention d'imposer quoi que ce soit, de culpabiliser qui que ce soit, et encore moins d'amener la division. Vous savez, quand on commence à parler du Shabbat dans l'Église, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention, il faut être prudent. Et on sait très bien que tout ça a été bouleversé il y a 1700 ans à peu près. Et on ne va pas commencer à casser toute la maison. Il faut aller avec sagesse. Hein? Alors, Quand on explique les choses aux gens, ils comprennent. À condition qu'on l'explique et que le Seigneur m'aide, qu'on l'explique avec le Saint-Esprit et avec amour. Voilà. Et on a remarqué que quand on commence à discuter sur le Shabbat, eh bien, parmi les chrétiens, chacun a de bons arguments pour faire valoir sa position. En réalité, vous savez, quand un homme ou une femme est persuadé de sa propre position, d'une bonne position selon lui, ben, il sait toujours trouver des justifications en sa faveur. On est comme ça, les hommes. Par conséquent, moi, la question que je me pose, mais ce n'est pas les arguments des hommes qui sont importants, c'est qu'est-ce qu'en pense l'Éternel? Voilà. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que l'Éternel a voulu nous donner en nous donnant Shabbat? Alors, on va essayer de passer en revue les questions importantes qui sont posées, et peut-être que, à travers cette étude, peut-être que on comprendra mieux le sens profond du Shabbat. Il est impossible de parler de l'esprit du Shabbat sans définir le sens de ce mot. Et la parole nous dit que Dieu a créé le Shabbat bien avant que le peuple juif existe. Le Shabbat, bien sûr, maintenant, quand on pense Shabbat, on pense aux Juifs. Mais je suis désolé, hein, mais le Shabbat existait bien avant que le peuple juif existe. Bien avant. Puisque on lit dans Genèse 2:2, alors je vous le lis dans la version Chouraki, parce que c'est celle qui est la plus, on va dire, la plus proche du point de vue mot à mot de l'hébreu. Elohim achève au septième jour son ouvrage qu'il avait fait. Il shom. Le septième jour. Il shom le septième jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Voilà. Il shom. Il shom. Alors vous allez trouver dans vos Bibles classiques, il se repose. C'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Le mot Shabbat vient de la racine Shabbat. Alors je vous signale en hébreu que le B et le V, c'est la même lettre. C'est pour ça que Shabbat et Shavat, ça se ressemble, mais c'est une histoire de point. Quand vous mettez un point dans le bet, ça fait un B. Quand il n'y a pas de point, ça fait un V. Voilà, c'est tout. C'est une question de petit dessin. Et donc, le verbe shavat, ça veut dire cesser. Cesser. Se désister. Alors, on peut aussi dire se reposer, mais vous allez voir que ce n'est pas ça. En tout cas, ça veut dire arrêter volontairement. Ça veut dire chômer. Et avec la même racine, d'ailleurs, on peut former le mot faire la grève. Eh oui, oui. Mais là, il pensait peut-être aux Français pour plus tard. Hein? Chez nous, c'est une spécialité. Hein? Alors, dans Genèse 2:3, on lit. Alors, cette fois, c'est même pas Chouraki, c'est une traduction mot à mot. Cette fois, du mot à mot. Hein? Donc, c'est pas du bon français. Hein? Elohim et Elohim a béni le septième jour et il a consacré lui. Donc il a consacré le septième jour. Car en lui, il s'était arrêté de tout son ouvrage qu'Elohim avait créé en faisant. C'est pas du bon français, hein, je recommence. Et Elohim a béni le septième jour et il a consacré lui. Donc il a consacré le septième jour. Vous remarquez que ce n'est pas le repos qu'il consacre, hein, c'est le jour. Bon. car en lui il s'était arrêté de tout son ouvrage qu'Élohim avait créé en faisant. Ça, c'est la vraie traduction, hein. Alors après, il faut le tourner en français pour que ça soit plus digeste, hein. Et on constate là que le septième jour est déclaré Kadesh. C'est-à-dire saint. Parce qu'Élohim s'est arrêté de créer. Il ne faut donc pas inverser les choses. Hein, ce qui compte, c'est le septième jour. Et il compte parce qu'il s'est arrêté de créer. D'accord? C'est pas donc, ce qui compte, ce n'est pas de s'arrêter, et par conséquent, ça s'est fait ce jour-là, c'est l'inverse, c'est dit dans l'inverse. Donc ce 7-là, il est important. Et le mot Kadesh vient de la racine Kadash, hein, qui signifie consacrer, mettre à part, saint. Hein? Ce mot, il est bien connu. Hein? Et le septième jour, donc, est séparé des autres. Et ce faisant, évidemment, le Shabbat est associé au septième jour. D'accord? On ne peut pas faire un Shabbat le sixième jour, ou le quatrième jour, ou quoi que ce soit. Non, c'est associé par Dieu au septième. J'approfondirai cette question plus loin parce que c'est important. Maintenant, je vais vous donner ici un bout d'étude qui a été faite en réalité par Jacques Collant, que vous connaissez, hein, et j'invite tout le monde à aller l'écouter, parce que si vous voulez apprendre la Bible et avoir de la connaissance, ben voilà encore un docteur. Hein. Il dira jamais qu'il est docteur, hein, Jacques, mais c'est quelqu'un qui est vraiment précieux devant Dieu. Alors, si nous prenons Exode au chapitre 20, et j'en ai parlé un petit peu dans une étude précédente. Exode au chapitre 20, vous avez là Dieu qui va donner les 10 paroles. C'est la première fois qu'il donne les 10 paroles, vous savez qu'il les donne deux fois. D'accord? Donc c'est la première fois et ces tables vont être cassées. Je rappelle, et je l'ai déjà dit dans une étude précédente, mais ça fait rien, l'enseignant il répète souvent. Hein? C'est fait pour ça. Parce que certainement vous êtes comme moi, on est un peu dur de la feuille et il faut dire plusieurs fois pour que ça rentre. Je vous rappelle que dans la création du monde, Genèse 1, c'est Elohim qui crée l'univers. Il crée. Le créateur, c'est Elohim. La fonction Elohim. Parce que, comme disait Michel, on ne connaît pas le nom de Dieu. Donc, c'est une fonction. Et en fait, ça représente les forces de Dieu, c'est aussi au pluriel, hein, les forces créatrices de Dieu. Ensuite, dans Genèse 2, il nous est dit que c'est Adonai Elohim, donc Yod-E-Vav-E, hein, le tétragramme est adossé à Elohim, et ce sont les deux ensemble qui parlent, qui créent l'homme et qui parlent à l'homme. Et c'est Adonai Elohim qui souffle sur l'homme pour lui donner la vie. Vous savez, il fait une poterie, hein, qui a la forme d'un homme, et puis il souffle dessus, et c'est Adonai Elohim qui souffle, c'est pas Elohim. D'accord? Parce que dans Adonai, vous avez cette fonction de bonté, de miséricorde, de la grâce, etc. Et c'est cette force-là, cet attribut-là, voilà, qui souffle. D'accord? Et puis arrive Satan sous la forme d'un serpent, il parle à Ève et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Enfin, c'est pas exactement ça la parole, mais... Et là, il coupe le nom de Dieu en deux. C'est-à-dire que il dit, Elohim a-t-il dit? Autrement dit, le Créateur a-t-il réellement dit? Et elle continue avec Elohim, c'est-à-dire que là, paf, le nom de Dieu, enfin, ce qu'on peut appeler le nom de Dieu, est coupé en deux, et la fonction éternelle, cet aspect éternel, miséricorde, etc., disparaît, il ne reste plus que le Créateur. Et évidemment, là, ça joue un rôle. Maintenant, si ça joue un rôle dans la création de toutes les religions qui sont basées à partir de ça, il manque le côté éternel que l'on retrouve uniquement que dans la foi chrétienne et dans la foi juive, l'éternité. Mais ici, vous voyez, on arrive dans Exode 20, et au premier verset, c'est uniquement Elohim qui parle. Elohim prononça toutes ces paroles en disant. Et au deuxième verset, c'est la même structure, hein? Au deuxième verset, donc Elohim dit toutes ces paroles pour dire, verset 2, moi-même, Adonai est ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre de Mitzraïm, de la maison des serfs. Donc, vous voyez que juste avant qu'il donne les 10 paroles, il se présente comme lorsqu'il s'est présenté devant Adam au moment de sa création. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en quelque sorte, souffler sur le peuple hébreu pour lui donner ce qui est nécessaire pour rentrer dans sa mission. On est en train de passer de famille, si vous voulez, d'hébreux à une nation. Dieu est en train de créer une nation. De la même façon, quand il a créé Adam, il a soufflé dessus, c'est devenu une âme vivante. Et bien là, il souffle sur le peuple hébreu et ça devient la nation d'Israël. Et cette nation reçoit 10 paroles. Et évidemment, ces 10 paroles contiennent le Shabbat. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que quand il dit « Adonai, ton Elohim, moi-même », il utilise en hébreu ce terme. Pour dire moi-même, il y a deux termes en hébreu. Soit on dit ani, soit on dit anori. Anori, c'est beaucoup plus puissant, c'est-à-dire tout moi-même. C'est tout moi-même qui te souffle les 10 paroles maintenant, reçois ces 10 paroles, et avec ces 10 paroles, tu vas aller dans les nations. Alors, c'est absolument important. Autrement dit, il sort des gens du chaos de l'Égypte et il les place comme un peuple vivant avec 10 paroles. La mission d'Adam était de s'occuper du jardin d'Éden, des animaux. Celle du peuple d'Israël qui vient d'être créé à ce moment-là, c'est d'être la lumière qui éclaire le voile qui est sur les nations. Alors, je vous reporte, si ça vous intéresse, à l'étude qu'on avait faite qui s'appelle « Le mystère des voiles » et vous verrez que c'est beaucoup de choses, le voile. Notamment Monsieur Lot. Lot, ça veut dire « voile ». Alors, ce souffle qui est soufflé sur le peuple hébreu, et c'est un souffle qui vient du ciel. Et l'Éternel fait donc comprendre là que c'est important, mais d'une importance capitale, et que tout péché qui sera fait sur terre sera dévastateur dans le ciel. Et comme il a fallu 10 paroles pour sortir le peuple d'Égypte, il faut 10 paroles pour construire la nation d'Israël. Et quand ces 10 paroles sont appliquées sur terre, elles le sont aussi dans les cieux. Parce que c'est Adonai Elohim qui a parlé. Et Adonai Elohim, il y a cette dimension d'éternité et une dimension de... comment dire, il n'y a pas de limite dans l'espace. C'est tout l'univers. Donc ce sont des paroles qui viennent et qui sont valables pour tout l'univers. Vous comprenez ça? Et vous voyez, quand on parle d'Elohim seulement dans la Bible, alors, vous savez ce que c'est la Gématria? La Gématria, c'est que chaque lettre hébreu a une valeur. Hein? Alors, c'est aussi une façon d'étudier la Bible. Il ne faut pas exagérer, parce qu'après, ça devient de la divination. Mais un mot a forcément une valeur. Par exemple, la première lettre, Aleph, c'est 1. Le Bet, c'est 2, etc. Vous voyez? Donc, c'est facile à faire. Et si vous prenez le mot Elohim en hébreu, il a pour valeur 86. Alors, vous allez rechercher dans la Bible quels sont les autres mots qui ont pour valeur 86. Eh bien, vous vous rendez compte que le mot nature, ateva, vaut 86. Donc, Elohim est attaché à la nature. Parce que Elohim, c'est le créateur. Vous voyez? Et donc, ça signifie aussi que si nous prenons notre liberté uniquement au niveau Elohim, eh bien, nous sommes limités par la nature. Si nous prenons notre liberté au niveau Adonai Elohim, alors elle n'est pas limitée. Et c'est pourquoi, en appliquant les 10 paroles, nous prenons notre liberté en Adonai Elohim et notre liberté est totale. Vous comprenez la différence? Ça dépasse la nature. Et donc, il y a encore une autre chose que je voudrais dire, c'est que l'Écriture ne laisse rien au hasard. Rien. Pourquoi le Shabbat est-il la 4e parole? C'est vrai, il aurait pu mettre en 5, en 6 ou en 2, j'en sais rien. C'est la 4e. Et si vous regardez l'alphabet hébreu, la 4e lettre, c'est le Dalet. D, si vous préférez. D'accord? Or, le mot Dalet veut dire porte. C'est tout simplement parce que le Shabbat est une porte ouverte sur les cieux. Et ça, on va s'en rendre compte. Alors, je lis Exode 20, versets 8 à 11, donc c'est les versets qui concernent le Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le consacrer. Tu travailleras 6 jours, fais tout ton ouvrage. Le 7e jour, Shabbat pour Adonai, ton Elohim. Donc vous voyez qu'il y a bien la dimension d'éternité, etc. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ta bête, ton métèque qui est dans les portes. Oui, 6 jours, Adonai a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui est, et puis... Et alors là, moi j'estime que ce n'est pas une bonne traduction, mais ça ne fait rien. Il s'est reposé le 7e jour. Sur quoi Adonai a béni le jour du Shabbat, il le consacre. Donc voyez ici qu'il est bien précisé que c'est le 7e jour. 7e jour intimement attaché au Shabbat. Et de plus, le verset 10 dit que le Shabbat est pour Adonai ton Elohim. En hébreu, ça se lit Shabbat la Adonai Elohecha, ton Elohim. On peut dire donc qu'au septième jour, on pourrait le traduire comme ça, au septième jour, arrêt pour l'Éternel, ton Créateur. Et les 10 paroles ont été données sur 2 tables de pierre. Étonnant, hein? En hébreu, le mot pierre se dit Even. 3 lettres. Aleph, Bet, Nun. 3 lettres. Avec ces 3 lettres, on peut former 2 mots. Le premier mot, avec les 2 premières lettres, vous formez le mot Av, qui veut dire père. Et puis, avec les 2 lettres, celle du milieu et celle de la fin, vous formez le mot Ben, qui veut dire fils. C'est-à-dire que ces 10 paroles sont portées par père et fils. Vous voyez, il faut vous reporter à ce que Michel disait hier soir. Ils sont portés par père et fils. Et maintenant, dans la Bible, quand vous trouvez le mot fils, peut-être j'aurai l'occasion de vous en parler demain, le mot fils qui se dit ben vient du verbe bana. Et bana, ça veut dire construire. C'est-à-dire que quand vous avez un fils, vous pouvez construire. Donc, le père envoie ce rayon de soleil, si on veut dire, qui est le fils, pour construire, et les 10 paroles sont portées par les 2. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Et alors, concernant cette histoire de fils, je voudrais profiter pour vous dire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le rappelle ici, c'est que Yeshua est un fils, c'est un ben, d'accord, fils premier-né d'ailleurs, donc il a le droit d'aînesse, et à un moment donné, il y a Barabbas. Vous vous rappelez Barabbas? Et c'était soit la mise à mort de Ben, fils du père, donc Yeshua, soit la mise à mort de Barabbas. Eh bien, Bar, ça veut dire fils en araméen. Et Abbas, c'est le père. Donc Barabbas, c'est le fils du père. Donc on avait le choix entre fils du père et fils du père. Mais Bar, c'est un fils qui n'est pas mûr. C'est un fils qui fait des bêtises. Vous voyez ? Tandis que Ben, c'est un fils qui est mûr et qui peut construire. Eh bien, on a donné la grâce à celui qui n'est pas mûr. Et Barabbas a été libéré. C'est un temps de grâce pour lui, et c'est celui qui est mûr qui est mort. Vous voyez ? Il n'y a pas de hasard dans la Bible, et ça c'est l'hébreu. Il faut aller dans l'hébreu pour trouver des choses comme ça, sinon vous ne voyez pas. D'accord ? Alors, maintenant, quand on étudie les 10 paroles, et quand on les met en ordre, 1, 2, 3, 4, 5, allez, comme ça, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, et vous remontez 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? Vous les mettez comme ça. Eh bien, vous vous rendez compte qu'on peut mettre en vis-à-vis des paroles. La première avec la dixième, la deuxième avec la neuvième, etc. Vous voyez ? Vous les mettez en vis-à-vis comme ça. Et vous vous rendez compte que la quatrième, le Shabbat, est en vis-à-vis avec la septième. Et la septième, c'est quoi ? C'est « tu n'adultéreras pas ». Tu ne commettras pas d'adultère. D'accord ? Ça veut dire que le Shabbat, c'est un rendez-vous d'amour entre celui qui veut faire son Shabbat et Dieu, C'est un rendez-vous d'amour et c'est le contraire d'un adultère. Mais on va en reparler si vous voulez après, hein. Et donc ici, il est question d'une relation d'amour avec l'Éternel, exactement comme un fiancé qui a donné un rendez-vous à sa fiancée. Et il a fixé un jour particulier. Et la question qui se pose, mais je vais l'approfondir parce que il y a tellement de discussions autour de ça que il faut vraiment l'approfondir. Sommes-nous capables? Avons-nous assez d'amour pour l'Éternel pour abandonner nos occupations le jour où lui, il a choisi de nous donner ce rendez-vous particulier? Il s'agit à la fois d'une question d'amour et de maîtrise du temps. C'est très important, vous savez, cette question. Alors, dans nos traductions, il nous est dit « Dieu se reposa ». C'est vraiment étrange. Parce que c'est vrai qu'au bout d'une semaine de travail, nous avons tous besoin de nous reposer. Ça, c'est vrai. Donc, dans la pensée de beaucoup de chrétiens, faire Shabbat, c'est se reposer. Bon, mais il nous est dit, Dieu se reposa de ses œuvres. Était-il fatigué? Ben non. Dans Ésaïe 40, 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire, Dieu se reposant? C'est bizarre quand même. Donc, ce repos-là, il a un autre sens que de se reposer de sa fatigue. C'est autre chose. Et si nous considérons le Shabbat uniquement comme un jour de repos physique, ou psychique même, d'accord? Alors, ben, je vais vous dire, le Shabbat n'est pas nécessaire. Hein? Il suffit d'aller se reposer quand vous êtes fatigué, puis c'est tout. Ben, bien sûr. Ah, je suis complètement pompé, j'en peux plus, ben, je vais me mettre au lit. Est-ce que c'est un Shabbat, ça? Non, ça s'appelle du repos. Eh ben, je peux me reposer n'importe quand. Quand j'en peux plus, je vais me reposer, puis c'est tout. Donc, quand on discute de repos avec des chrétiens, il est clair que pour la plupart d'entre eux, le jour importe peu. Le jour importe peu parce qu'ils pensent au repos physique et au repos psychique. Et la difficulté, c'est de bien comprendre en quoi consiste justement le repos de Shabbat. Et puis, par ailleurs, je vous dis, ce n'est pas l'homme qui a choisi le jour, c'est l'Éternel. Et pour être clair, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Dieu a fixé ce jour, il a dit, voilà, c'est ce jour-là, c'est pas n'importe quand. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'y avait pas de manne dans le désert. La veille, il y avait double part. On mettait de côté et ça ne pourrissait pas pendant le jour de Shabbat. Ça montre bien que Dieu avait dans la semaine choisi un jour particulier. C'était rythmé comme ça et ça a tenu pendant 40 ans. Donc c'est vraiment un miracle qui montrait que Dieu avait décidé que ce jour-là, c'était un jour où on s'arrêtait. Voilà. Alors, le repos de Shabbat consiste à arrêter d'interférer avec le monde. Or, la parole, elle est troublante. Écoutez un peu ce qui est écrit dans Genèse 2:2. Elohim achève au jour du septième, au jour septième, pardon, son ouvrage qu'il avait fait. Il chôme le septième jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Regardez un petit peu ce qui est écrit. Elohim achève au septième jour son ouvrage qu'il avait fait, il chôme le septième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas tout à fait fini les six premiers jours et qu'il termine au matin du septième? Hein? Ah, j'ai pas tout à fait fini, il faut que je termine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est caché là derrière? Comment peut-on à la fois achever et se reposer de son œuvre? C'est bizarre quand même. Vous voyez, hein? Eh bien, tout simplement parce que au septième jour, Dieu a inventé le Shabbat. Et c'était ça, la fin de son ouvrage. Il a inventé le Shabbat. Il termine son ouvrage en s'arrêtant. Voilà. Et le Rav Arié Kaplan donne ici deux définitions du travail et du repos, selon lui, hein, bien sûr. Le travail constitue, enfin, le travail constitue un travail au sens du Shabbat, selon lui, hein, tout acte par lequel l'homme manifeste sa maîtrise sur le monde au moyen de son intelligence ou de son habileté. Je recommence. Il faut le dire deux fois parce que la première fois on écoute à moitié. Constitue un travail au sens du Shabbat, tout acte par lequel l'homme manifeste sa maîtrise sur le monde au moyen de son intelligence ou de son habileté. C'est-à-dire que s'arrêter, ça veut dire que je laisse le monde dans l'état où il est et je me retire. Le repos constitue un repos au sens du Shabbat, le fait de ne pas interférer sur la nature, de ne pas marquer qu'on en est le maître. C'est un état de paix entre l'homme et la nature. L'homme se retire, s'arrête de construire le monde, de le changer, etc. Parce que au septième jour, l'Éternel a arrêté d'exercer sa domination sur la création. Pendant six jours, il a transformé la création, il l'a formée, etc. Et puis, au septième jour, il s'est retiré de toute cette activité. Le septième jour n'est pas un jour profane pendant lequel on se défatigue simplement. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et vous voyez, il y a deux textes qui nous annoncent le Shabbat, puisque les dix paroles ont été données deux fois. Dans Exode 20, le repos est en relation avec les six jours de la création. Mais quand vous allez dans Deutéronome 5, et là du verset 13 à 15, je vous le lis parce que vous allez voir une différence. Tu travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, afin ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Tiens, ça veut dire que dans la première version, c'est en relation avec les 6 jours de la création. Et dans la deuxième version, c'est en relation avec la sortie d'Égypte, donc la libération de l'esclavage. Or, le livre du Deutéronome, c'est un livre résumé qui, en fait, est écrit, ou qui raconte l'histoire plutôt, vers la fin de la vie de Moïse. Ça veut dire qu'ils sont déjà sortis depuis presque 40 ans. Moïse va mourir. Ce livre, il est là. Ça veut dire que presque tout le monde est mort au désert. Donc tous ceux qui sont là et qui vont rentrer en terre promise n'ont jamais connu l'esclavage. Et il leur dit, vous ferez Shabbat en souvenir de votre esclavage. Mais pourquoi il dit ça? Mais tout simplement parce que le repos de Shabbat, c'est la preuve que nous sommes maintenant libres. Et c'est pourquoi nous sommes devenus capables de dominer le temps. Dans notre société, voyez, les gens courent après le temps. Hein? Les gens n'ont de temps pour rien, même les retraités. Je peux vous le dire. J'en suis. Les retraités n'ont pas de temps. Hein? C'est vrai? On a quelques-uns ici. Bon, on n'a jamais le temps pour rien. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit de Yavan. Hein? Parce que c'est là la différence aussi des esprits. Hein? Et donc, on ne s'arrête jamais, on n'a pas le temps, et ça s'appelle un mode de vie, ça. Et c'est un mode de vie qui s'appelle l'esclavage, tout simplement. On ne sort pas si facilement que ça, je l'ai dit hier, de cette mentalité d'esclave, parce que pour en sortir, il faut être conscient. Et c'est fou le nombre d'excuses qu'on peut inventer pour être indispensable. On est occupé, suroccupé. Et parfois, on se dit que si nous ne faisons pas, le monde va s'écrouler. Bon. Alors, pourquoi Dieu dit ça en souvenir de l'esclavage? Mais tout simplement parce que si on n'y veille pas, on retourne à l'esclavage de nous-mêmes. C'est dans notre vieille nature. Notre vieille nature est esclave. Et notre vieille nature nous retourne vers l'esclavage. Donc Dieu nous dit, mais si vous pratiquez Shabbat selon la pensée de Dieu, alors vous serez vraiment libre. Et vous allez voir, je vais vous expliquer, vous essaierez si vous le voulez, mais vous constaterez qu'un vrai Shabbat, c'est très difficile à faire. Très difficile. Et la plupart des chrétiens actuels sont dans l'œuvre, mais pas dans la présence de Dieu. Beaucoup sont dans l'œuvre, dans l'activité, tout ce que vous voulez. Même si ça prend la forme de louanges et tout ce que vous voulez, beaucoup ce sont des œuvres. Mais sont-ils dans l'intimité de Dieu? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, il faut apprendre à se taire, hein, parce que quand on parle beaucoup, ben, Dieu ne peut plus en placer une. Mais c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup me taire. Véronique, elle sait très bien, je suis devant l'ordinateur à préparer des études bibliques. Pendant qu'elle est en bas, on vit pas au même étage, comme elle dit. Mais je veux aucun bruit. Je veux aucun bruit. Je prépare mes études tranquillement. Aucun bruit. Et Dieu, je lui demande, mais conduis, 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 conduis. Si vous faites du bruit, il ne peut pas en placer une. Alors, je vais vous parler maintenant du Shabbat et du tabernacle. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Très important. très important. On observe dans le livre de l'Exode que Dieu va donner toutes les informations pour construire le tabernacle. Il va lui montrer sur la montagne comment il est, le tabernacle qui est dans les cieux. Et il dit, tu feras exactement pareil, mais sur terre. Donc, dans les moindres détails, il lui donne tous les détails. Les vêtements des sacrificateurs, les objets, comment tu vas faire, comment tu vas coudre avec des fils de telle couleur, etc. Il définit tout. Et puis, on arrive au chapitre 31, entre les versets 1 et 11, où là, Dieu désigne même les personnes qui vont être capables de fabriquer les différents éléments du tabernacle. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Et puis, vous vous rendez compte que le début de la construction du tabernacle, ça n'est qu'au chapitre 36. Donc, on passe du 31 au 36. Bizarre, hein? Pourquoi ils n'ont pas commencé tout de suite? Eh bien, parce que Dieu a donné une parole très importante. Et il y a eu un événement très important là qui s'est produit. Dans Exode 31, versets 12 à 17, il est écrit ceci. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes. Toutefois, je vous rappelle, il vient de terminer d'expliquer comment on allait faire le tabernacle. Et il dit toutefois, vous observez mes Shabbats, car c'est un symbole de moi à vous, dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Gardez donc le Shabbat, car c'est une chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. 6 jours on se livrera au travail, mais le 7e jour il y aura repos. Repos complet, consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail... Les enfants d'Israël seront donc fidèles au Shabbat en l'observant dans toute leur génération comme un pacte immuable. Entre moi, les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel attestant qu'en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et que le 7e, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. Alors, je vais paraphraser ça. Parce que, voilà, ils ont reçu tous les ordres. Ils savent comment faire. On va dire, ils ont les outils à la main, ils sont prêts à faire, ils sont prêts à démarrer, il y en a toute une équipe. Et Dieu dit, certes, vous allez construire un tabernacle pour que j'y sois présent, mais ne violez pas le Shabbat. C'est ça qu'il dit. Autrement dit, le Shabbat est plus important que la construction du tabernacle. Vous entendez bien? Maintenant, je vais vous le dire en français courant et en français chrétien. Le Shabbat est plus important que la construction de l'Église. D'accord? C'est moi qui le dis, ça. Que s'est-il passé? Pourtant, vous voyez, le tabernacle, hein, ça devait être le lieu de la présence de Dieu. Hein, le lieu de rencontre où Moïse rencontrait Dieu. C'est là qu'il recevait ses instructions. Eh bien, la construction du tabernacle devait être arrêtée au jour du Shabbat. Parce que les hommes auraient été tentés de continuer ce jour-là. Et le viol du Shabbat était puni de mort. de mort par lapidation, c'est-à-dire le jugement le plus dur qui soit. Et je trouve que c'est vraiment étonnant. Moi, ça m'a posé question, cette histoire. Maintenant, le chapitre qui suit, donc là on était dans Exode 31, on passe en Exode 32. Qu'est-ce qui se produit là? Le veau d'or. Bing! Le veau d'or. Et vous voyez cette juxtaposition. Oh. Je suis dyslexique, mais bon, là j'y suis arrivé. Hein? Ce rapprochement, c'est plus facile à dire comme ça. Ce rapprochement de ces deux choses-là, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, le Shabbat, c'est le contraire d'un adultère. Là, Moïse est parti sur la montagne, et qu'est-ce qui se passe? On passe du 31 au 32, paf, Dieu a dit, vous ferez mes Shabbats, etc., paf! Le veau d'or. Le veau d'or. L'adultère. Dieu vient de parler du Shabbat à Moïse et l'adultère se présente en bas dans la vallée. La façon dont Moïse a réglé ce problème est aussi surprenante parce que qu'est-ce qu'il fait? Il brise les tables. Ensuite, il discute avec Dieu. Parce que Dieu est sur le point de détruire le peuple. Hein? Et puis, ensuite, il brise le veau d'or, il le brûle, et puis avec la poudre qui reste, il le met dans l'eau et il fait boire ça aux gens. Il a fallu qu'ils digèrent, autrement dit, leur fausse représentation de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'on pourrait discuter sur ces choses-là pendant... Il y a des tas de choses à trouver. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment fondateur. Parce que quand Moïse a fait boire ça aux gens, ensuite il se place en dehors à la porte du camp, dans Exode 32, 26, et il dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Regardez ce qui se passe. C'est un moment fondateur. Parce que Dieu avait dit, vous serez une nation de sacrificateurs. Ça rejoint ce que Michel disait. Or, voilà qu'ils viennent de commettre un anti-Shabbat, un adultère. À partir de là, une seule tribu se met de côté, c'est la tribu de Lévi, et au lieu que ça soit tout le peuple qui soit sacrificateur, il n'y aura que la tribu de Lévi qui sera sacrificateur. Et il faudra attendre la venue de Yeshua pour rétablir cette chose complètement. Vous serez tous sacrificateurs. Mais regardez, et ça c'est moi qui vais parler après, là, mais j'espère qu'à travers moi c'est la parole de Dieu. Croyez-vous que Dieu sera moins sévère avec les sacrificateurs actuels, disciples de Yeshua, qu'avec ceux du désert, disciples de Moïse? Il ne change pas. Et même s'il patiente dans sa grâce, quand Dieu dit « Tu ne feras pas d'image taillée », ni de représentation, etc. C'est comme s'il disait, ne m'enfermez pas dans votre façon de penser, votre façon de penser doit être changée, sinon vous allez vivre et digérer vos erreurs jusqu'à ce que vous connaissiez que je suis. Ça rejoint ce que Michel disait hier. J'interviens dans toute chose, je suis le libérateur de vos esclavages. Tout enfermement est un esclavage. Pourquoi les Hébreux ont-ils fait un veau d'or? Eh bien, parce qu'il représentait ce qu'ils imaginaient de Dieu. Et pourquoi en sont-ils venus à faire ça? Eh bien, parce que leur foi a été vaincue à cause du temps. Moïse était sur la montagne. Il ne le voyait pas descendre. Ils ont été impatients. Et ne le voyant pas venir, ils ont enfermé Dieu dans leur image. Et à partir de ce moment-là, ils étaient devenus esclaves d'eux-mêmes et de leurs pensées, et donc impropres à devenir sacrificateurs. C'est de nos pensées que jaillissent nos actes. Tout esclavage, écoutez bien ce que je vais vous dire, tout esclavage rend impropre à la sacrificature. Or, l'homme est ainsi fait que s'il n'y prend pas garde, il va s'enfermer dans le faire, 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 faire. Parce que, pourquoi? Eh bien, parce que c'est un moyen très puissant de contrôler le monde. Et quand Dieu dit, mais faites mes Shabbats, ça veut dire que ce jour-là, j'arrête de contrôler le monde. Vous comprenez ça? On veut prouver par tout ce que l'on fait qu'on existe. Mais vous avez remarqué une chose, ça m'est arrivé, donc je peux vous le dire. C'est quand arrive un obstacle dans notre activité, dans tout ce que nous faisons, arrive un obstacle, genre maladie, ou accident, ou un pépin quelconque. Avez-vous remarqué que lorsqu'un chrétien est stoppé comme ça dans un élan d'activité par un événement inattendu, entre guillemets, souvent, on a le réflexe de dire, c'est une attaque. C'est le malin. C'est une attaque. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas si simple que ça. L'Éternel aussi peut nous arrêter et nous faire réfléchir. À vouloir toujours accuser le malin, on le charge quelquefois de nos propres péchés et c'est bien commode. Dieu n'a-t-il pas mis brutalement en déportation le peuple de Juda pendant 70 ans? Pourquoi 70 ans? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas respecté les Shabbats de la terre. 70 ans, c'est le même temps. Donc Dieu a dit, moi je vais donner à la terre ses Shabbats. Donc dégagez de là, tac, allez à Babylone, et la terre aura ses Shabbats. Ah. Blaise Pascal dit, nous sommes pleins de choses qui nous jettent au dehors. Le surmenage, l'extériorisation constante de nos vies détermine, si nous n'y prenons pas garde, une usure vorace de notre vitalité intérieure. Et il a ajouté, quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Et vous voyez, ici, Pascal, il exprime une clé. Mais il est frappant, vous voyez que, il y a des choses qui me frappent dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, dans Nombre 15, versets 32 à 36, il est écrit, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Et au verset 35, il ajoute, l'Éternel, c'est l'Éternel, hein, dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est effarant. Quelle sévérité! Mais c'est le seul cas. C'est le seul cas dans la Bible. Et quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Un qui ramasse du bois, il est mis à mort, et après, plus personne, on n'en parle plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'exemple. C'est effrayant, hein? Mais avez-vous remarqué qu'il y a eu dans la Bible un autre jugement du même genre? C'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti au Saint-Esprit. Boum! Foudroyés sur place. Tous les deux. Mais c'est le seul exemple. Un exemple, on va dire, dans l'Ancien et un exemple dans le Nouveau. Ce n'est pas le même problème, bien sûr, mais c'est deux exemples de jugement de Dieu comme ça. Blanc. Pourquoi ces exemples? J'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi il y a ces exemples? Parce que, je vais vous dire, certainement, il y a eu d'autres personnes qui ont ramassé du bois ou fait quelque chose pendant le Shabbat et ils ne sont pas morts. En tout cas, la Bible n'en rapporte pas d'autres. Et puis, laissez-moi vous dire que des chrétiens qui ont menti au Saint-Esprit donnent à voir des quantités. Hein? Et ils ne sont pas foudroyés. Alors, je me suis dit, mais ça veut dire que derrière tout ça, il y a une loi spirituelle. Il y a une loi spirituelle, et que le viol du Shabbat, dans la pensée de Dieu, l'Éternel ne parle pas pour rien. Il ne nous a pas dit ça pour nous amuser. Ce serait vraiment du masochisme, enfin, je ne sais pas moi, d'accord? Mais ça veut dire que le viol d'un Shabbat a une application spirituelle dans notre vie, mais qu'elle est cachée à nos yeux, on ne la voit pas. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que celui ou celle qui ne respecte pas le Shabbat dans l'Esprit de Dieu, je parle, hein, a quelque chose en lui qui meurt. Et ce qui meurt en premier, je vais vous le dire, c'est la liberté. C'est la liberté. Mais nous sommes ainsi faits que bien souvent, nous n'en sommes pas conscients. Un homme incapable de s'arrêter n'est pas libre. S'il n'est pas capable de prendre du temps avec son Dieu, attendez bien, au moment choisi par Dieu, c'est qu'il ne l'aime pas assez ou qu'il est prisonnier. Je sais que ça va soulever des tornades derrière, mais je le dis quand même. Une relation d'amour dans un couple a besoin d'être entretenue, bien sûr. Il faut prendre du temps ensemble. Véronique et moi, on prend du temps ensemble. Tous les jours, Véronique, elle me dit, allez, on va promener. Et on part la main dans la main, etc. Et puis voilà, elle me sort de mon truc. Et on va promener. Et tous les gens nous connaissent. Hein. Alors, et puis on a des moments à deux. Voilà, on passe du temps à deux. Ben oui. Et on est comme des jeunes mariés. C'est vrai, hein? C'est tout à fait ça. Hein. L'amour n'a jamais baissé. Moi, je lui dis tout le temps qu'elle est belle, elle me dit, elle me croit pas. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et avec notre Dieu, c'est pareil. Alors, la question du jour, du septième jour, on va l'aborder un petit peu plus loin. Mais la vraie liberté ne consiste pas à choisir le moment du rendez-vous du Shabbat. La vraie liberté, c'est d'être disponible au moment du rendez-vous fixé par l'Éternel. C'est ça la vraie liberté. Albert Guigui, dont j'ai déjà parlé, Albert Guigui, le grand rabbin de Bruxelles, a écrit « Chaque journée est un progrès en tant qu'éloignement de l'esclavage ». Vous voyez ? Et la Bible parle énormément du temps. Elle ne laisse pas au hasard les heures et les jours. Regardez comment Dieu a fixé les jours. Tu feras telle fête, tel jour, etc. C'est très fixé. Est-ce que nous, on va changer ça? Non, on n'en a pas le pouvoir. Dieu l'a dit comme ça. Les sept fêtes de l'Éternel, c'est l'horloge de Dieu. Et les sept jours de la semaine, c'est notre horloge à nous qui tourne. Si vous voulez, il y a une grande roue dentée et une petite roue dentée qui tourne à côté et le temps tourne comme ça. Et on est en harmonie, les deux roues dentées sont en harmonie. La Torah insiste sur le fait que chacun doit prendre son temps entre ses mains. Nous sommes chacun responsable de nous-mêmes, mais nous sommes aussi responsables les uns des autres. Et vous voyez, le temps nous échappe, et pourtant le temps a été confié à l'homme. Et ce qui est passé, est passé. Le temps ne revient plus. Nous ne possédons pas le temps. Il faut agir autant que possible de manière à ne pas le regretter. Et la teshuva, c'est-à-dire la repentance, c'est le mot hébreu pour c'est la teshuva, eh bien, c'est la planche de salut, si vous voulez, parce que, avec le pardon, nous ne sommes plus captifs du passé. C'est coupé. Et nous pouvons, à partir du moment où on n'est plus captif du passé, nous pouvons ne plus reproduire les fautes du passé. Et vous voyez que le grand rabbin Guigui lui dit, le Shabbat est notre cathédrale. C'est la cathédrale du temps. Alors, dans notre société, la société de Yavan, tout est fait pour réduire le temps au minimum. Et on croit qu'en gagnant du temps, les choses vont être meilleures. C'est la façon actuelle de résoudre les problèmes du temps. Ça n'empêche que la société qui est construite maintenant, je ne vais pas vous faire un dessin, elle est incertaine et d'une fragilité, mais d'une fragilité extraordinaire. La science, la connaissance, la technique, les progrès sociaux, l'Internet ont transformé le monde en un grand village fragile. C'est un engrenage dont personne ne peut prévoir ce qui va lui arriver. Et ici, il y a un auteur qui s'appelle Eschel, dans son livre « Les bâtisseurs du temps », dit « Il nous est impossible de résoudre le problème du temps par la conquête de l'espace, par des pyramides ou par la gloire. Le problème du temps ne peut être résolu que par la sanctification du temps. Aux hommes coupés de leurs racines, le temps paraît s'écouler inconsistant. Aux hommes qui vivent avec Dieu, le temps est un visage de l'éternité. » Et il ajoute, « Le Shabbat nous mène vers un royaume de paix infinie, au seuil de l'éternité. Il est peu d'idées au monde aussi chargées de forces spirituelles que l'idée du Shabbat. » Alors, vous savez bien que l'Église a basculé du Shabbat au dimanche. Comment tout ça s'est fait? Quand on va fouiller dans le Nouveau Testament, il nous est dit que dans Marc 16, 9, Yeshua, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, et je ne vais pas plus loin, Le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Nous sommes bien d'accord. Or, ce jour-là, c'était le lendemain du Shabbat après la Pâque juive. C'est donc le jour de la fête des prémices. Donc, ce qui est important, ça n'est pas que ça soit un dimanche, mais que ça soit la fête des prémices, parce qu'il est écrit que Yeshua est nos prémices, c'est notre prémice. Il est ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, 20, maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc il a réalisé la fête des prémices et il se trouve que c'est le lendemain d'un Shabbat. Alors, beaucoup ont dit, ah ben si c'est le dimanche, alors ça veut dire que désormais il faut fêter ça le dimanche. Si nous déplaçons le Shabbat au dimanche, admettons qu'on le fasse. Déjà, moi je dirais, faut quand même avoir un sacré culot. Parce que si Dieu a fixé le jour, sur quelle autorité nous basons-nous pour déplacer ce qu'il a dit ? C'est trafiquer les Écritures. D'accord ? Bon. Mais par exemple, concernant la fête de Shavuot, il nous est dit dans Lévitique 23, versets 15 à 16, « Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de l'autre, d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Donc, la fête de Shavuot, elle est comptée à partir de Shabbat. Si vous déplacez le Shabbat au dimanche, bing, la fête, elle se déplace. Et si vous déplacez celle-là, vous déplacez celle qui suit. Autrement dit, vous avez tout déplacé. Et vous avez démoli la roue dentée de Dieu. Tout simplement. Donc, en détruisant le calendrier de Dieu, nous méprisons non seulement ses paroles, mais nous nous plaçons dans la même situation que Jéroboam, qui, pour éviter les relations avec le royaume du sud de Juda, avait déplacé les dates des fêtes. Et exactement, vous voyez, que l'Église, c'est ce qu'elle va faire. L'Église, c'est ce qu'elle va faire. Alors, j'ai bien aimé Michel qui parlait des pères de l'Église. Je vais vous en rajouter une couche. Donc, moi, je vais vous donner ici des citations de deux pères de l'Église. Le premier s'appelle, il l'appelle, moi je ne l'appelle pas comme ça, Saint Jean Chrysostome. Vous allez voir ce que ce saint dit. Il était évêque de Constantinople de 350 à 407. D'accord ? Écoutez bien, hein. Les démons habitent non seulement la synagogue, mais les âmes des Juifs. Rechercheriez-vous la guérison du corps au prix du salut de votre âme ? Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il y avait beaucoup de médecins juifs. Fuyez ou repoussez les Juifs. Ils ont la prétention d'être les meilleurs médecins du monde, mais leur science médicale n'est qu'imposture, enchantement, amulette et pratique empruntée à la magie. Leurs synagogues ne sont que des lieux de débauche où se rendent les femmes impudiques. Je sais que nombreux sont ceux qui respectent les Juifs et pensent que leurs rites sont honnêtes, même aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai hâte de déraciner cette pernicieuse opinion. Voilà Saint Jean Chrysostome, père de l'Église. Alors maintenant, je vous en mets un deuxième. Saint Ambroise, 340 à 397, évêque de Milan. Lorsque l'esprit immonde est sorti d'un homme, il erre par les lieux privés d'eau, cherchant le repos sans le trouver. On ne saurait douter, cela est dit de la populace des Juifs, que plus haut le Seigneur a exclu de son royaume. C'est beau ça, hein? Ils étaient tous antisémites. Ils étaient tous antisémites. Et bien entendu, dans ce climat de haine, il n'était plus question de faire le Shabbat. Il fallait absolument isoler les Juifs et créer un nouveau Shabbat. Et donc, le dimanche. Et ici, un petit texte du Concile de Laodicée, l'empereur romain Constantin Ier, converti, entre guillemets, au christianisme, appréciait également le culte solaire. Il imposa le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par le décret du 7 mars 321. Ainsi, le jour du soleil chez les Romains devint le jour du Seigneur. En 364, le concile de Laodicée interdit aux chrétiens de judaïser en observant le Shabbat, sous peine d'anathème. Alors, il y a eu des arguments, parce que, vous savez, les méchants, pour appliquer des méchancetés, ils essayent toujours de se donner bonne conscience, donc il faut trouver des arguments en essayant de faire que ça tienne la route. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont regardé les actes des apôtres, et puis ils ont cherché, mais quand est-ce qu'on parle du dimanche dans les actes des apôtres? Ben, pas souvent, hein. Pas souvent. Alors, dans Acte 20, versets 7 à 12, il est écrit la chose suivante. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Retenez bien. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant un long discours de Paul, et entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez point, car son âme est en lui. » Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Alors, ici, ce texte a donné lieu à beaucoup de discussions, parce qu'il est reconnu que Luc, l'auteur des Actes, était un grec, ou en tout cas quelqu'un de très hellénisé. Et la scène se passe, il semblerait que ça se passe un dimanche, le premier jour de la semaine. Mais la présence des lampes nous dit que c'était en pleine nuit. Alors la question est de savoir, est-ce que Luc considérer les journées à la romaine ou à la juive. Si on décompte selon les juifs, le dimanche commence le samedi soir et après le coucher du soleil. Et selon le décompte romain, le dimanche commence après minuit et se termine au minuit suivant. Alors, est-ce que c'était un dimanche ou un lundi? On n'en sait rien. D'une part, est-ce que c'était une sainte scène ou est-ce que c'était une agape et puis un repas de communion, tout simplement, on n'en sait rien non plus. Eh bien, on se base sur ces textes-là pour dire que le dimanche, il faut prendre la sainte scène. Voilà. Il y a un autre texte où il est écrit ceci, 1 Corinthiens 16, versets 1 à 3. C'est Paul qui parle et il dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné en église de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir des dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Vous voyez, certaines églises utilisent ce verset pour dire, ben vous voyez, le dimanche est sanctifié, c'est le jour où on donne sa dîme. Or, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Le samedi, on ne manipule pas d'argent. Ben, il dit, au premier jour de la semaine, commencez à mettre de l'argent de côté, parce que si vous attendez le dernier jour, il n'y aura plus rien, tout simplement. Donc commencez dès lundi, et puis quand j'arriverai, peut-être en fin de semaine, eh ben on recueillera les offrandes. Vous voyez ce que ça veut dire? Et comment on tourne les Écritures? Et puis enfin, un dernier, alors ça c'est les catholiques, c'est encore le plus fameux je trouve. Ah celui-là il est fameux. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette. Le jour du Seigneur. Et alors ils disent, ben c'est le dimanche. Ah oui, mais t'as pas lu l'Ancien Testament? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens, l'Ancien Testament, ils veulent plus en entendre parler. Mais allez donc voir dans l'Ancien Testament ce que ça veut dire le jour du Seigneur. C'est le jour, j'allais dire, des règlements de compte. Hein. C'est le jour du jugement. C'est pas le dimanche. Hein. Ça n'a rien à voir. Et donc, les Juifs connaissent bien cette expression, le jour du Seigneur. Hein. Et donc, ça s'appelle aussi jour de la colère de Dieu, jour de l'Éternel, etc. Et donc, bah, ils disent, bah, vous voyez, le jour du Seigneur, c'est dimanche. Mais enfin, c'est ridicule. Alors, maintenant, évidemment, le problème, c'est le suivant. C'est que ça fait 1700 ans tout ça. Ça fait 1700 ans, les habitudes ont été prises, et la question qui m'était posée, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je dis, on ne peut pas, selon la parole de Dieu, moi c'est la parole de Dieu qui m'intéresse, et dans la pensée de Dieu, on ne peut pas cautionner le dimanche à la place du Shabbat. Maintenant, si ça vous dit de faire... quelque chose le dimanche, vous êtes libre. Mais je veux dire, ça ne remplacera jamais le Shabbat. L'objectif en créant le dimanche comme ça, c'était de séparer Israël et l'Église. C'est ça l'objectif. Donc, en dessous, c'est mauvais. C'est un péché, en fait. Un gros péché. D'accord? Et si maintenant, nous, l'épouse de Christ... Si nous voulons nous rassembler avec l'autre moitié de l'épouse qui est en Israël, elle va rentrer dans l'épouse. Il faudrait au moins qu'on se rassemble le même jour. Et Yeshua n'a jamais supprimé le Shabbat. Il a lutté contre la pratique légaliste. Alors, je voudrais quand même... Parce que mon but aussi, c'est de faire aimer les Juifs. Faire aimer les Juifs. Et quand vous allez en Israël, vous allez découvrir, par exemple, l'ascenseur Shabbat. Enfin, pour ceux qui sont allés là-bas, c'est un truc marrant. Vous allez dans les hôtels, et puis vous voyez, il y a deux ascenseurs. Il y a un ascenseur, c'est vous appuyez sur le septième, zout, vous allez au septième. Et puis, le jour du Shabbat, il y a un ascenseur, il s'arrête à tous les étages, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton. C'est un ascenseur Shabbat. Alors, il faut de la patience. Hein. Si vous avez le temps, si vous êtes au 45e étage, eh ben voilà, hein, d'accord. Et ça, vous voyez, ça provoque quoi? Ça provoque la moquerie.
Excusez-moi, c'est à cause de quoi? De l'électricité, à cause de quoi?
Oui, je vais en parler. Ça provoque la moquerie et moi j'aime pas qu'on se moque des Juifs, même s'ils font ça. Et je vais vous expliquer d'où ça sort ça. En fait, tout à l'heure je vous ai dit, Dieu a dit, attention, ne mettez pas le tabernacle au-dessus du Shabbat. Le Shabbat est au-dessus du tabernacle. D'accord? Alors, les sages d'Israël ont dit quels sont les travaux que l'on effectue pour faire un tabernacle. Et ils ont étudié méthodiquement tous les travaux nécessaires pour faire un tabernacle. Par exemple, il faut, avec du fil, il faut faire des nœuds. Il faut, faut mélanger de la terre pour faire, pour pouvoir planter un pieu, enfin, des choses comme ça. D'accord ? Et ils ont fait un inventaire, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet, de 39 travaux qu'il ne faut pas faire parce que ce sont les travaux qui font le tabernacle. Donc ce jour-là, les Juifs ont décidé que ces 39 travaux serviraient à être la base de ce qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez ça? Par exemple, vous voyez, Yeshua, à un moment donné, il veut guérir un aveugle. Il crache par terre, il fait de la bouillabaisse avec, et il l'applique sur l'œil de l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est le dixième travail du travail du tabernacle. Travail interdit, pétrir la terre. Il est interdit de pétrir la terre au jour du Shabbat, parce que c'est un des travaux de la construction du tabernacle. Donc, aux yeux de quelqu'un de légaliste, c'est un scandale. Vous comprenez? Et donc, il y a un tas de choses comme ça, comme par exemple faire du feu, allumer le feu, etc. Et c'est pour ça, cette question, on n'appuie plus sur le bouton, parce qu'on met en route un moteur, ça fait en quelque sorte de l'énergie, etc. D'accord? Et donc, quand les chrétiens, moi je vais vous dire, on peut se moquer des juifs, moi je ne le fais pas. Je les respecte, ils ont décidé ça. Mais avant de critiquer les juifs, observez un peu les chrétiens. À un moment donné, on a été dans une petite église, et on a découvert un truc formidable. Ils discutaient, mais ils discutaient depuis des semaines et des semaines et des semaines pour savoir si la Sainte Cène devait être prise dans une coupe ou des petits verres. Le résultat de ça, c'est qu'ils ont mis les deux. Franchement, est-ce qu'on n'est pas dans la même classe ? Et les chrétiens ont ce don de discuter sur des bêtises comme ça, qui n'ont ni queue ni tête, et ça vous divise les églises, et ça vous divise, et les gens sont vexés, et il m'a fait ci, et il m'a fait ça, et je m'en vais. Et tralala. Alors, est-ce qu'il faut prendre la Sainte Cène comme ci? Est-ce qu'il faut prendre la Sainte Cène comme ça? Est-ce qu'il faut prendre du pain azim? Est-ce qu'il faut prendre du pain normal? Est-ce que c'est du pain gâteau? Est-ce que ceci? Oh là 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 là! Et ce que le Seigneur voulait faire comprendre, c'est que ces bêtises-là, c'est de la bêtise. Voilà. Alors, je voudrais vous dire aussi qu'une des conséquences, justement, de ces règles-là, actuelles, hein, c'est que les synagogues sont toujours implantées au milieu des habitations des Juifs. Pourquoi ? Ben parce que pour aller à la synagogue, ils vont à pied. Les chrétiens n'ayant pas cette règle-là, ils prennent leur voiture pour aller dans l'église qu'ils veulent. Et moyennant quoi, ça leur évite d'aller demander pardon là où ils se sont disputés. Et on camoufle ainsi nos péchés, etc., etc. Alors, des pistes de réflexion. Hein. Disons d'abord que, je vais vous dire, si vous n'êtes pas convaincu que Dieu a choisi un jour particulier, le samedi, pour le Shabbat, alors faites comme vous voulez. faites comme vous voulez, moi je ne vous impose rien. Parce que celles et ceux qui veulent rentrer dans l'obéissance de Dieu, dans l'Église, comme ça, en disant « Maître, désormais je veux faire le Shabbat », ils vont se heurter au monde chrétien qui depuis 1700 ans s'est habitué au dimanche. Et quelquefois, ça va être des heurts très violents. Je vous rappelle que les noms des jours de la semaine, dimanche, c'est le jour du soleil, lundi, c'est la lune, c'est les dieux, hein. Mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, et samedi, c'est Saturne. Les juifs, eux, ils ont jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, et Yom Shabbat. Alors, j'ai rencontré des chrétiens qui me disent « Ouais, mais moi, depuis que je suis chrétien, je fais Shabbat tous les jours. » Si, c'est vrai, hein. Alors, je leur réponds « Ah bon, vous êtes chômeur ? Ou bien, vous êtes en retraite ? Ou alors, vous êtes en longue maladie ? Comment vont-ils faire ? Selon l'esprit dont j'ai parlé, c'est pas possible. » Voyez ? Et puis il y en a qui font des yeux ronds, on a l'air de dire de quoi tu me parles ? Shabbat. Et puis faire Shabbat tous les jours, parce qu'attention, ils en viennent presque aux mains. Hein. Faire Shabbat tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a plus de jour à part. Il est où le jour saint ? Il n'y en a pas. Donc tout est banalisé. D'accord ? Et ça veut dire, ce qu'ils veulent dire, moi j'ai compris ce qu'ils veulent dire, ça veut dire qu'ils sont en communion avec Dieu tous les jours. Eh bien, tant mieux pour eux. Qui continuent. Tant mieux. Mais qu'ils ne viennent pas de me dire qu'ils font Shabbat tous les jours, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup disent, le Shabbat, c'est pour les Juifs. Et certains rabbins disent, le Shabbat, c'est pas pour les chrétiens. Mais vous savez pourquoi ils disent ça ? Parce que les rabbins, les juifs, ont suffisamment souffert des chrétiens, ils n'ont pas trop envie de les voir arriver. Mais évidemment. Et puis, rappelons que le Shabbat consiste à arrêter d'intervenir dans la construction du monde, y compris le tabernacle, donc y compris l'Église. Et quand j'ai donné mon papier à ce pasteur qui m'avait posé cette question, mais ça veut dire que ce jour-là ne va pas commencer à faire des réunions pour préparer les réunions qui vont faire d'autres réunions. C'est un jour où tu arrêtes de construire, y compris l'Église. C'est un jour à part. C'est un jour de joie. Il y avait une jeune fille qui était venue à Sion et elle nous a dit « Je ne savais pas que Shabbat, c'était un jour joyeux. » J'ai dit « Quoi ?»« Eh oui, parce qu'il y en a qui considèrent qu'à Shabbat, on fait la tronche, je ne sais pas, c'est le jour de Dieu. Alors on est, je ne sais pas. Mais non, mais chez nous, Shabbat, c'est gai. À Shabbat, c'est gai. Figurez-vous qu'à Shabbat, c'est là que monsieur honore madame en Israël. Mais bien entendu, c'est la joie, c'est le bonheur. À Shabbat, on est heureux en famille, on va promener en famille. On se retrouve parce que la famille, c'est la base. Et à Shabbat, vous voyez, les juifs ont mis au point un petit rituel. Alors on peut le critiquer, ce petit rituel, mais dans ce petit rituel, il y a la bénédiction de l'épouse, il y a la bénédiction du mari, il y a la bénédiction des enfants, des petits-enfants, des beaux-enfants, tout le monde y passe. Et nous, tous les vendredis soirs, on bénit toute la famille nominativement. Et pourtant, ils sont nombreux. On a 15 petits-enfants. Et bien, ils y passent tous. Et on se bénit l'un l'autre. Mais vous voyez des enfants qui, toute leur enfance, ont été bénis par leurs parents, comme ça. Comment voulez-vous qu'ils deviennent mauvais ? Ils sont sous la bénédiction en permanence. Alors, chez les Juifs, à Shabbat, plus de téléphone, plus de mail, plus de télévision, pas de réunion de travail, pas de préparation de messages, pas de bricolage, on se promène, on mange ensemble, on loue ensemble, on admire la création, on étudie la parole de Dieu ensemble, on honore notre Dieu. C'est un jour de joie, on ne vit pas au même niveau que les autres jours. C'est le moment d'admirer ce que Dieu fait, ce qu'il a fait pendant la semaine. Et vous voyez, Calvin disait qu'à Shabbat, il faut regarder Dieu besogner en nous. Et souvent, Véronique et moi, on a remarqué une chose, c'est que quand on se pose des questions sur la parole de Dieu, questions spirituelles, bizarrement, c'est à Shabbat que Dieu nous répond. Bizarrement. C'est comme ça, c'est un constat. Alors, dans un monde qui est structuré comme sur le dimanche, comment on peut faire? Eh bien, il nous est dit, si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, un petit peu plus loin, il est dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Sur les hauteurs du pays. Comment faire? Disons que si vous voulez le faire pour vous-même, c'est très bien. C'est très bien. Faites-le discrètement. Si vous voulez changer votre communauté, faites attention. Un virage à 180 degrés, ça fait toujours un accident. Si vous n'êtes pas décidé, si vous n'avez pas réellement compris, ne faites rien. Changez pas, c'est bien comme ça. Faites comme d'habitude. Si on est responsable d'une communauté, on peut au moins supprimer ce jour-là les réunions de construction de l'église, les préparations de messages, etc. De toute manière, à un moment donné, si on est responsable, il faudra le dire à la communauté. Et à ce moment-là, vous allez voir l'Église se diviser en deux. Les traditionalistes qui resteront sur le dimanche, et puis ceux qui veulent bien s'avancer vers le Shabbat. Et pour ne pas briser la communauté, parce que moi je ne suis pas pour la destruction, pour ne pas briser, on peut mettre en place des groupes de maisons qui fonctionnent sur le Shabbat, et d'autres qui fonctionnent sur le dimanche. Mais il faut y aller progressivement. Parce que si vous cassez la baraque, qu'est-ce qui va rester? Et l'idéal, c'est de fonder de nouvelles communautés. Sur le principe du Shabbat, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Vous voyez que beaucoup de chrétiens sortent des églises et ils créent des petites communautés dans les maisons. Eh bien, profitez de l'occasion pour les créer sur le Shabbat. Et puis c'est tout. Si vous avez la possibilité, bien entendu, si vous êtes obligé de travailler le samedi, ben, demandez à Dieu s'il ne peut pas vous trouver un autre boulot. Hein? Attention, le fait de dire que nous pratiquons une forme de Shabbat, parce qu'il n'y a aucune forme expliquée dans la Bible, hein? Fait de nous des judaïsants. Et ça, je vais vous dire, c'est l'un des pires péchés pour les chrétiens. Et notamment pour les pasteurs. C'est la hantise des autorités de l'Église, c'est que l'on judaïse. Donc, si vous commencez à dire à votre pasteur, « Ah, ben, maintenant, je vais faire le Shabbat », attendez-vous à avoir une bonne claque. Parce que l'esprit de Laodicée, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le concile de Laodicée. Il plane encore. Regardez, dans le canon 29 de Laodicée, il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le Shabbat. Mais ils doivent travailler en ce jour, ils doivent se reposer le dimanche, comme les chrétiens préférant ce jour s'ils veulent, sous peine d'anathème. Et en canon 37, défend d'accepter des juifs ou des hérétiques les présents qu'ils envoyaient à leur fête, ni de célébrer avec eux. Alors, je termine. C'est vrai que l'heure avance. D'abord, je voudrais vous dire que ce fameux Constantin, qui n'était pas converti, il s'est fait baptiser la veille de sa mort. Comme ça, il pense que ses péchés ont été effacés. Bon. Alors, je termine en disant la chose suivante. Un verset pour une conclusion. C'est Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et bien moi je vous enseigne que la pensée du Shabbat a été donnée par Dieu et qu'il est bon de la suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bravo.